Bah, je voulais te souhaiter une bonne année, toi et ton équipe. J'écoute ton émission assez souvent. Voilà, je la trouve intéressante. Et maintenant que j'ai réussi à mettre mon répondeur, enfin ton téléphone sur mon répondeur, ben, ça sera d'être un peu plus souvent pour émettre quelques remarques, quelques critiques, si c'est possible. Voilà.
J'ai parcouru plusieurs fois le chemin de fer. J'ai résidé en Éthiopie sous l'ancien régime au moment de la Révolution. Je l'ai même fait avec ma fille âgée de 18 mois. Bon, c'est effectivement pittoresque, mais c'est aussi un lien vital pour le commerce de l'Éthiopie. Ce n'est pas du tout un chemin de fer colonial, hein, absolument pas, puisque c'est Ménélique qui l'a financé, qui s'est battu pour qu'effectivement il soit fait. La dernière petite chose, ces gens ne sont pas drapés dans des chamas, hein, parce qu'ils auraient froid, les pauvres. Ils ont des barnos, hein, qui sont des faits de coton très épais, souvent de deux épaisseurs. C'est comme ça qu'ils ressemblent à des fantômes la nuit, les Éthiopiens. Bien, mais au revoir, et puis merci de cette belle émission. Au revoir.
Je suis Simone Rice, et d'habitude, je n'aime pas Daniel Mermet, enfin souvent. Là, vraiment, j'ai été très émue par son reportage sur le train. Il a une voix tellement affectueuse, tellement bonne pour les gens, que je lui pardonne beaucoup de ses déclarations qui étaient presque d'extrême gauche, et souvent j'ai fermé son émission. Par exemple, celle avec José Bové, que je ne supporte pas. Certaines cités où il y a beaucoup de violence et qu'il est parfois du mauvais côté. C'est tout. Mais là, vraiment, j'ai trouvé qu'il était humain, chaud, tendre envers les pauvres gens. Voilà. Merci.
Voilà, au fond, pas si méchant que ça. Merci de vos messages. Je rappelle le numéro du répondeur 01 56 40 37 37. Émerveillement en écoutant ce répondeur avec Christophe. On se dit, quel que soit le sujet qu'on aborde, là c'est les trains en Éthiopie, il y a toujours un auditeur qui a quelque chose à dire, qui connaît, qui fait la différence entre le chama et le burnous, qui sait tout ça. Mais quel que soit le sujet qu'on aborde, et c'est une chance extraordinaire que nous avons d'avoir, de nous adresser comme ça une multitude d'auditeurs, diversité, disons, d'auditeurs, pas une multitude, mais une diversité à ce point d'auditeurs. Alors j'espère qu'aujourd'hui, ben, vous allez nous suivre jusqu'au bout avec le Monde Diplomatique, avec l'équipe du Monde Diplomatique. Vous savez qu'on se retrouve tous les mois autour du numéro du mois. Aujourd'hui, on va parler du Brésil. Lula, ben oui, bien sûr, Lula. On va parler de Chavez, on va parler du Venezuela. On va parler d'une création. Le Monde Diplomatique va créer un observatoire mondial des médias. Ça va sortir il y a quelques années. Ben, c'était Attaque qui était sorti aussi comme ça, et on avait été les premiers à en parler. Et oui. Et puis d'autres sujets, les retraites, enfin des sujets divers et variés qui sont dans le numéro de ce mois-ci du Monde Diplomatique. Mais auparavant, vous allez voir là aussi un message. Les auditeurs de la Bastille Suisse s'intéressent à tout.
En fait, mon appel, c'est plus une question. J'ai lu ce matin dans un quotidien régional que Monsieur Lula voulait donner à manger à tous les Brésiliens, mais qu'en même temps il voulait accéder au marché pour exporter ses produits agricoles. Ce serait bien qu'il y ait un jour une émission qui nous explique comment c'est possible. Est-ce que Lula serait déjà converti aux vertus du marché? Et puis, dans le même ordre d'idées, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi ça ne, soi-disant, marche pas, ce que Mugabe a fait au Zimbabwe. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Voilà, des questions qui me passent par la tête, et je crois qu'à la base, si j'y suis, on peut peut-être me répondre. Au revoir.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec le Monde Diplomatique.
Flight number 2, arriving from New York. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
maintenant, en bref, le reste du monde. Et pourquoi en bref? Eh bien parce que le reste du monde se vend mal. 2,5 millions de morts dans la guerre des Grands Lacs. Qui en a entendu parler? Où sont les Grands Lacs? En Italie? En Amérique? Ça vient de quoi cette ignorance? Que vous êtes stupide? Pas du tout. Que les journalistes sont malhonnêtes? Pas du tout. Ça vient de ce que ça se vend mal. Une sur un sujet étranger, c'est 40% de vente en moins. Donc le Soudan pourra attendre, le Cachemire, le Tibet peuvent attendre, l'Inde, plus d'un milliard d'habitants, la Chine, la Birmanie, tout ce que vous voudrez, tout le reste du monde peut attendre. C'est ainsi les fourches codines du marché. Dans le diplôme de ce mois-ci, dans le numéro du mois de janvier 2003 du Monde Diplomatique, il y a un long article sur la liberté d'édition qui est en danger face au monopole Lagardère. La question n'est pas de savoir si on va favoriser plutôt des livres, des ouvrages, des publications de droite par rapport à des publications de gauche, ou le contraire, le contenu n'est pas idéologique du tout. Si ça se vend, on le fabrique, on l'édite. Mais peut-être faut que ça se vende pour qu'on l'édite. Dans ces conditions, il y a énormément, la majorité des œuvres de l'esprit qui n'existeraient pas. C'est un des dangers que nous courons, un immense danger que nous courons aujourd'hui. Est-ce que nous courons? Faut savoir. Est-ce que nous marchons? Faut savoir. Est-ce que nous rampons? Il faut savoir. Quoi qu'il en soit, vous avez à la fois du mérite et de la chance pendant une heure, le Monde Diplomatique, une autre façon de voir, avec Ignacio Ramonet, avec Alain Grèche, avec Bernard Cassen, avec Martine Bullard. C'est là-bas que j'y suis, jusqu'à 18h sur Radio. Alors on va commencer avec ce numéro de janvier du Monde Diplo, avec un éditorial assez gai, assez stimulant, puisque Lula est au pouvoir au Brésil, Ignacio Ramonet.
Oui, c'est une bonne nouvelle, hein. C'est une bonne nouvelle, je pense, d'abord pour les Brésiliens. C'est un président, d'abord, qui a été très très bien élu, hein, plus de 62% des voix. Donc, il arrive avec une énorme légitimité dans cet immense pays. Le Brésil, c'est 170 millions d'habitants. Hein, c'est 10e ou 11e puissance industrielle du monde. C'est donc un colosse, un pays dont les exportations principales quand même se situent dans l'aéronautique, l'automobile, etc. C'est pas le pays qui correspond forcément à l'idée qu'on a souvent de lui. C'est-à-dire le pays de la samba, bien entendu, et du carnaval. Mais c'est aussi un pays sérieux, une grande puissance industrielle. C'est aussi, bien sûr, le pays des inégalités, un des pays les plus inégalitaires du monde. Hein. Je rappelle dans cet article que 1% de la population possède 53% de la richesse du pays. Donc, un pays qui a élu quelqu'un comme Luiz Inácio Lula da Silva et qui est à la fois chef du Parti des Travailleurs, fondateur du Parti des Travailleurs, fondateur du syndicat le plus important du Brésil également, et qui se présentait pour la quatrième fois, c'est un homme avec une énorme expérience politique, et qui arrive à un moment de l'Amérique latine où, de toute évidence, un certain nombre de signes nous montrent que les choses sont en train de changer. L'Amérique latine était dans un cycle, disons, néolibéral depuis peut-être une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Partout, on avait à la fois établi des démocraties parlementaires comme étant les régimes indispensables, les régimes presque parfaits ou idéaux, et d'autre part, des politiques d'ajustement monétaristes, libérales, libre-échange, libre-échangistes. On voit bien maintenant les limites, parce qu'il y a eu l'échec retentissant du Pérou, d'abord, avec cette fuite de Fujimori, l'effondrement d'un système en plus de corruption et de surveillance monté par Montesinos, etc. Donc d'abord cet effondrement, ensuite bien sûr l'effondrement argentin.
37% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté en Argentine.
Absolument, hein, et dont la moitié des actifs se retrouvent dans une situation difficile, hein, ne pouvant pas travailler dans les secteurs pour lesquels ils ont été formés. Donc l'effondrement de l'Argentine est quand même assez spectaculaire. Après 15 ans, après avoir été l'élève idéal, l'élève modèle du Fonds monétaire international, dans un véritable cas d'école, nous avons déjà souvent parlé avec vous même au cours de cette émission. Mais on a vu par ailleurs, donc d'une part le Venezuela, l'élection de Chavez, la politique de Chavez. Bien sûr, Chavez a des difficultés aujourd'hui parce que une partie de la population.
Parlez-nous un petit peu de Chavez, parce qu'on vous attend sur Chavez, le monde diplomatique. Vous avez soutenu Chavez. Alors aujourd'hui, vous en êtes où avec Chavez?
Nous n'avons pas soutenu Chavez dans le sens où on n'a pas fait un pari sur Chavez. Nous avons reconnu que c'était une élection, celle de Chavez, qui est un homme qui a été élu en 98 de manière plébiscitaire, puisque Venezuela, l'élection de Chavez, c'est le résultat de l'effondrement de deux partis qui avaient gouverné ce pays pendant 40 ans et qui avaient battu des records en matière de corruption. Donc il était en quelque sorte le résultat de l'effondrement d'un système déjà. Et c'est cela que nous avons reconnu. La population vénézuélienne, c'est-à-dire en les lisant, rejetait tout ce que pouvait représenter le système antérieur. Bien, Chavez continue de respecter la démocratie, l'a toujours respecté. Il a respecté toutes les libertés, pas de prisonniers politiques, la liberté d'opinion et d'expression continue d'être respectée. Il se trouve qu'il a essayé de mettre en route le programme pour lequel il avait été élu, qui est un programme, disons, très modéré, de réformes sociales très modérées.
Et comment expliquer alors qu'il ait cette image aussi détestable dans le monde et dans les médias français?
Alors, l'image,
parler de médias aussi.
L'image détestable, en grande partie, elle est due essentiellement au fait que les gens s'informent en lisant les médias. Comment savons-nous ce qui se passe au Venezuela? Bien, on se branche sur un certain nombre de sites, par exemple, je parle pour le commun des mortels, et en particulier pour les journalistes, se branche sur un certain nombre de sites, le site des grandes chaînes de télévision vénézuéliennes, les sites des deux ou trois grands journaux de Caracas, qui sont tous hostiles d'une façon hystérique contre Chavez, parce qu'ils appartiennent à des empires économiques qui, bien entendu, se sentent menacés par les timides réformes qu'est en train, ou que souhaite mettre en place Chavez, qu'il a à peine eu le temps de mettre en place. Et donc, par conséquent, l'image que beaucoup de médias à travers le monde répercutent, c'est l'image de ces médias qui sont des médias de guerre civile, qui sont des médias de haine, sont des médias qui remplacent les partis politiques inexistants de l'opposition. Et donc, par conséquent, en se branchant sur ces médias, on se branche directement sur l'un des acteurs de cet affrontement, et l'acteur, bien entendu, le plus conservateur, le plus réactionnaire du panorama politique vénézuélien. Par conséquent, de là la répétition, par exemple, de termes qui n'ont aucun sens quand ils s'appliquent à Chavez, termes autocrate, termes autoritaire, le terme de populiste, ça n'a pas de sens. Chavez gouverne avec une toute petite majorité au Parlement. Il a 4 ou 5 parlementaires de majorité. C'est donc une majorité très relative. Il n'a pas la majorité absolue. Et on voudrait qu'on nous cite une mesure de type autoritaire ou de type dictatorial qu'il a pu prendre jusqu'à présent. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Mais ce qui est intéressant, c'est de constater, d'abord, son soutien populaire est toujours important, même si les classes moyennes, bien sûr, ne le supportent pas, et que, d'autre part, il y a cette campagne médiatique très importante qui finit par avoir une influence, qui, d'autre part, avec les grèves successives, eh bien, empêche la mise en route d'un programme économique normal. On est devant un processus qui, bien sûr, n'a rien à voir, mais qui rappelle beaucoup ce qui s'est fait contre Allende dans les années 70. Bien sûr, il n'y avait que les mineurs du cuivre qui s'y opposaient de manière centrale, mais cette opposition bloquait la ressource économique principale du pays, empêchait la mise en route de programmes économiques prévus par le gouvernement, et donc faisait que l'on pouvait parler à l'époque de chaos économique, de désordre généralisé, et ceci s'est retourné, et bien entendu contre Allende, avec l'intervention des forces armées. On observe que dans le cas de Chavez, les forces armées qui, à un certain niveau, c'est-à-dire niveau des hauts gradés, s'étaient manifestées le 11 avril dernier, ne se manifestent pas en ce moment. Il a le soutien, disons, de l'armée. Et pourtant, disons, c'est une armée qui pourrait également estimer qu'elle a des comptes à demander. Donc ce n'est pas le cas. Pour l'instant, voilà un président qui n'a pas transgressé la légalité démocratique de son pays.
Bernard Castaigne.
En revanche, l'opposition transgresse absolument toutes les légalités. C'est l'appel au meurtre dans la presse dont vient de parler Ignacio, l'appel à l'insurrection permanente. Le 2 janvier a été présenté, la manifestation du 2 janvier a été présentée comme la bataille du 2 janvier. Le droit de manifestation est reconnu. Des morts, il y a eu des morts le 2 janvier, des morts dû à la police métropolitaine de Caracas qui fait partie de l'empire en quelque sorte de l'opposition, mais ce qui est absolument est énorme, c'est que l'opposition, elle est prise en otage la compagnie pétrolière nationale PDVSA. C'est un petit peu comme si EDF, par exemple, le haut état-major d'EDF prenait en otage les centrales nucléaires françaises, dire ben voilà, on coupe l'électricité en France. En fait, la grève, la pseudo-grève de PDVSA, c'est la grève des grands cadres de PDVSA dont le chef, le porte-parole le plus important, gagne $1 million par an. Voilà des grévistes de très grand luxe. Et en fait, ces hauts cadres de PDVSA ne supportent pas que l'entreprise reste nationale. Ils l'ont déjà largement privatisé de l'intérieur en ayant un train de vie absolument inouï. Ils ont des étages entiers de Hilton de par le monde, des avions privés, etc., etc. Ils ne supportent pas que l'entreprise soit au service de l'État vénézuélien, et en particulier, ils ne supportent pas la politique de Chavez qui a été de respecter les quotas de l'OPEP. En fait, eux veulent augmenter la production. Donc là, on a une entreprise putschiste, mais à un niveau inouï. C'est une entreprise nationale qui se transforme en fer de lance contre la politique décidée démocratiquement par le gouvernement. Donc je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de réaction face à une grève qui n'a aucun motif économique et qui est uniquement une grève visant à chasser le président démocratiquement élu.
Avec le monde diplomatique jusqu'à 18h, là-bas, si je suis, ça, une chanson en hommage à une carabine qui s'appelait 30-30 au temps de Francisco Pancho Villa.
Carabina 30-30, que los rebeldes portaba y decía los maderos que con ellas no matar. Con mi 30-30 me voy a pelear, ingresa a las filas de la rebelión. Sin sangre piden mi sangre les doy, por los habitantes de nuestra nación. Yeah.
propia que adelante, tú que nunca tienes miedo. Come 30-30 me voy a pelear, y que sea las filas de la rebelión. Si mi sangre pide, mi sangre les doy, por los habitantes de nuestra nación.
Un million et demi de Mexicains sont morts lors de la révolution mexicaine déclenchée en 1911. Là, on vient d'entendre cet hommage à cette carabine de 30-30. 1,5 million, entre autres, pour la restitution des terres aux paysans, la répartition de la terre. En 1911, 1912, 1913. C'est une bataille qui est en cours au Brésil. C'est dire si les problèmes de l'Amérique latine sont terribles. Alors on continue avec l'équipe du Monde Diplomatique autour de ce numéro de janvier 2003. Alors on continue avec l'équipe du Monde Diplomatique autour du numéro de janvier, mais je voudrais qu'on revienne sur cette histoire de médias là dont on vient de parler, parce que on s'aperçoit qu'effectivement entre ce que vous dites et ce qu'on reçoit de ce qui se passe au Venezuela, notamment l'image de Chavez, là il y a quand même un fossé. Donc vous avez décidé de créer le Monde Diplomatique. C'était quand Attaque, il y a 5 ans?
C'est l'édito d'Ignacio Ramonet qui a lancé toute cette affaire, date de décembre 1997, donc ça fait 5 ans. Et voilà. Attaque est né quelques mois après.
Là, un peu de la même façon, vous lancez un observatoire mondial des médias.
Alors, Ignacio Ramonet, l'an dernier, lors du Forum social mondial à Porto Alegre, donc, a lancé cette idée, dans un séminaire, de créer un observatoire international des médias, pour lequel on a pris un nom générique, anglais d'ailleurs, malgré mes réticences.
La carpette anglaise, là.
Non.
Le prix de la carpette anglaise, Ignacio Ramonet.
Media Watch Global. L'idée, c'est de créer cette association qui ensuite va certifier, va labelliser des associations nationales, d'ailleurs dont certaines sont déjà créées, au Brésil, au Venezuela, puisqu'on vient d'en parler, qui seront donc des observatoires des médias. Et ces observatoires comprendront au moins 3 catégories de personnes physiques ou morales. D'une part, des professionnels de la presse, des journalistes ou des syndicalistes, etc. D'autre part, des chercheurs, des universitaires dans le domaine de la communication. Et troisièmement, des usagers. Personnalité.
On n'a pas dit clients, hein.
Non, des usagers, des lecteurs, des téléspectateurs, des auditeurs, etc. Et tous ces gens-là, en travaillant ensemble, et dans un vaste réseau que va nous permettre très facilement l'Internet, eh bien, observeront les médias et observeront, en particulier, les déviations, les mensonges, les manipulations, les bidonnages fréquents. Évidemment, le Venezuela est un cas d'école comme on ne peut même pas en rêver dans une école de journalisme. D'ailleurs, le Venezuela fera l'objet à Porto Alegre, dans le prochain Porto Alegre, dans quelques semaines, du 23 au 28. Il y aura un séminaire là-dessus et il y aura un mur de la honte médiatique vénézuélienne qui sera mis en place avec tout simplement des quotidiens sans aucun commentaire. Il n'y a pas besoin de commentaire, vous regardez la une, vous avez tout de suite compris, et puis des écrans de télé où on passera des programmes, des vrais programmes vénézuéliens. Alors la logique, c'est de créer au niveau, dans chaque pays, avec une coordination internationale qu'assurera cette association, un mouvement citoyen pour le droit à l'information qui est ouvertement bafoué au Venezuela, mais qui l'est aussi à d'autres degrés dans beaucoup d'autres pays. Mais peut-être Ignacio peut aller plus loin que moi dans l'analyse de du Media Watch.
Non, c'est simplement ce qu'a dit Bernard est l'essentiel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de types de censure. Là, nous parlons pour le Venezuela, bien entendu, c'est un cas absolument révoltant d'une censure de type politique, idéologique. Mais dans nos pays, par exemple, nous sommes tout de même confrontés à des censures de type économique. Il est évident que quand l'ensemble des médias sont la propriété, disons, de quelques groupes, en particulier en France, le groupe Lagardère, le groupe Dassault.
Vous avez un papier là-dessus, hein, sur la concentration éditoriale.
Un papier en particulier sur l'édition, dans le domaine de l'édition, le monopole Lagardère. Et il est évident que ça a des conséquences dans le contenu même des médias. Globalement, l'objectif de Media Watch, c'est bien d'essayer d'instaurer ce qu'on pourrait appeler une écologie de l'information, c'est-à-dire un nettoyage de l'information par la critique des citoyens de l'information. Il ne s'agit pas d'instaurer en quelque sorte un tribunal qui condamnerait les médias sur le plan pénal, au sens propre du terme, mais sur le plan moral, sur le plan éthique, c'est-à-dire une la liberté de la presse, bien entendu, est à respecter, mais je crois qu'il y a aussi une obligation de la part des médias d'avoir un devoir d'information en matière de qualité. Et par conséquent, une institution comme MediaWatch va tout simplement veiller à ce que cette qualité corresponde réellement à la vérité, aux faits, etc. Et lorsque les différentes organisations locales estimeront que ce n'est pas le cas, eh bien, le diront médiatiquement également. Hein, et donc, il y aura un débat médiatique entre ceux qui affirment avec l'autorité que leur donne la possession des grands médias et les citoyens qui ont maintenant, qui vont avoir en main disons un instrument civique pour protester contre, pour se défendre.
Ça semble un petit peu lointain. D'abord, le titre est en anglais. On parle de Venezuela. Ça, c'est l'autre bout du monde. Est-ce qu'on va avoir des critiques des médias français? On sait que finalement, on est dans un beau pays démocratique et de débat. On a le pays de Voltaire et de Diderot. Mais enfin, les médias critiquent pas beaucoup les médias en France. À la différence peut-être des États-Unis, etc. Est-ce qu'on va avoir une critique quotidienne, permanente et compétente des médias français?
Je pense que c'est ce qu'il faut faire dans chaque pays. Il y a, Bernard citait tout à l'heure...
Il y a des réticences à l'intérieur de la profession elle-même.
Oui, c'est pourquoi d'ailleurs, Bernard le rappelait à l'instant, cette idée de cet observatoire international, l'idée forte, c'est celle qu'il a indiquée, c'est que quand vous faites l'analyse de, en définitive, qui aujourd'hui, en quelque sorte, défend la profession, ben, ce sont les professionnels de la profession qui parlent de la profession. Hein. C'est un peu corporatiste. Il y a des médiateurs, il y a des syndicats, etc. Mais c'est finalement les médiateurs qui parlent des médias, tout simplement. Là, l'idée, c'est de faire entrer, d'une part, des universitaires. Hein, et dans beaucoup d'universités à travers le monde se sont développés des départements de communication avec un vrai savoir, une vraie science d'analyse des médias. Et qu'aujourd'hui, ceux qui connaissent mieux les médias ne sont pas forcément les journalistes. Parfois, ce sont des experts en communication qui se trouvent dans les universités. Et donc, leur savoir est sollicité par cette organisation. Et puis ensuite, tout simplement, les consommateurs. Chacun d'entre nous constate très souvent, en lisant la presse française, en écoutant la radio française, ou en regardant la télévision française, les manipulations dont nous sommes l'objet, les scandales, les omissions.
L'oubli surtout. Hein. Régis Debray parle de l'ardoise magique qui fait que tous les jours, on recommence tout. Et on a oublié ce qu'on a dit la veille. Alors ça, c'est les médias, c'est l'immédiat. C'est plus embêtant, vous parlez des universitaires, c'est le moment où les universitaires, ou les intellectuels, entre guillemets, procèdent de la même façon, ou aussi profitent de cette ardoise magique pour oublier du jour au lendemain les commentaires qu'ils ont pu faire, et en apportant la caution et le capital symbolique qui est leur.
De ce qui peut être fait, on pourra dire aux très nombreux futurs membres de l'Observatoire français des médias, tel jour, à telle heure, vous écoutez l'émission de Daniel Mermet, par exemple, ou bien l'éditorial du matin d'Europe 1 ou de France Inter. Vous écoutez et on fait un forum, voyez, avec quelques milliers de gens qui vont intervenir sur votre émission et qui vont faire une critique extrêmement serrée, peut-être sévère, de là-bas si j'y suis. Et après, eh bien, peut-être qu'il peut en publier un article ou bien un livre, etc., etc. Donc, c'est faire intervenir l'ensemble des citoyens sur un objet médiatique déterminé et en y apportant les connaissances des chercheurs et puis aussi
Allez essayer de répondre à un mystère quotidien, c'est celui des menus du jour. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce matin, sur toutes les radios, vous avez 1200 radios en France, hein, je suis un homme de radio, 1200 radios en France. Et ce matin, on a toutes les mêmes éditos, le même programme, la même liste. On a les retards dans les aéroports. Qui décide de ça? Où est le super où est le Big Brother?
Je crois qu'il n'y a pas de chef d'orchestre, hein, il n'y a pas de complot. Il y a effectivement... Il y a un fonctionnement.
Mais qu'est-ce que c'est que ce tressage extraordinairement réussi qui fait que chaque jour, on sait à l'avance ce qu'on va mettre dans le journal du matin
le même contenu, le même ton. Je suis sûr que si on prenait le thème de Chavez, hein, on verrait que toutes les radios ont dit la même chose sur Chavez au même moment. Tous ensemble et en même temps, c'est extraordinaire. On nous avait promis la diversité.
Y compris sur votre antenne.
La question, c'est que les médias, on le sait depuis longtemps, répètent les médias. Et il y a un certain nombre de médias locomotives, de médias porteurs, comme ça, font que finalement, ça fait un entraînement. Les médias passent leur temps à dire la même chose que ce que disent les autres. Et donc, c'est ça qui fait l'actualité au bout d'un certain temps.
Ouais.
Moi, j'ai essayé d'expliquer ça dans la tyrannie de la communication. D'ailleurs, au bout d'un certain temps, il y a des sujets qui, comme tous les médias en parlent, il faut bien entendu en parler. Et comme de plus en plus de médias en parlent, c'est absolument nécessaire de donner son point de vue. Et même les médias les plus réticents, je pense même au monde diplomatique, nous sommes régulièrement confrontés à ce problème-là. En ce moment, tous les médias parlent de cela. Est-ce que nous devons en parler, nous aussi? Ici, l'objectif d'une organisation comme MediaWatch, qui est une ONG, essentiellement, c'est de tout simplement répondre à cette question centrale. C'est aujourd'hui, dans une démocratie moderne, les médias sont le seul pouvoir qui n'a pas de contre-pouvoir. Tous les autres pouvoirs ont un contre-pouvoir. L'ambition, tout simplement, de l'Observatoire international des médias, c'est de participer, en quelque sorte, à l'édification d'un contre-pouvoir contre le pouvoir des médias.
Ces campeurs sous mes persiennes, mais comprenez-moi, c'est dur à voir quels sont ces gens sur mon plongeoir. Dans les poulaillers d'Acajou, les belles basse-cour à bijoux, on entend la conversation de la volaille qui fait l'opinion. Ils disent, on peut pas aimer tout Paris, n'est-ce pas, y a des endroits la nuit plus bronzés que nos petits poulbons. Mais comprenez-moi, la tchè là-bas, c'est pas ce qu'il faut sous nos climats. Mais comprenez-moi, à Rochechouart, y'a des taxis qui ont peur du noir. Dans les poulaillers d'Acajou, les belles basse-cour à bijoux, on entend la conversation de la volaille qui fait l'eau. Que font ces jeunes assis par terre, habillés comme des traîns de misère? On dirait qu'ils n'aiment pas le travail, ça nous prépare une belle pagaille. Mais comprenez-moi, c'est inquiétant, nous vivons des temps décadents. Mais comprenez-moi, le respect se perd dans les usines de mon grand-père.
Nos forces feront en sorte que l'Irak soit rejeté dans l'ère pré-industrielle, ainsi s'exprimait James Baker, secrétaire d'État américain en 1990-91. Et on se souvient plus récemment des propos du président George W. Bush. Ou bien vous êtes avec nous, ou bien vous êtes avec les terroristes. Y a-t-il un rapport entre ces deux déclarations? En tout cas, le saviez-vous, chers amis, 37% des Américains sont de mauvais Américains, il faut le dire. 37% sont opposés au projet de leur président concernant l'Irak. La guerre prévisible en Irak, c'est un des sujets du mois dans le monde diplomatique. On retrouve Alain Grèche.
On continue avec le numéro du mois de janvier du Monde diplomatique. On a parlé un petit peu de l'Irak avec Alain Grèche. Vous faites pas mal de papiers ce mois-ci, mais c'est plus sur l'Irak même, sur dans cette guerre prévisible. D'abord, quelle est votre conviction là-dessus, puisque tout le monde en parle, ça fait partie des sujets dont on parle, donc on va en parler aussi. Est-ce que cette guerre annoncée va se... Alain Grèche?
Oui, je crois que les États-Unis sont décidés à...
Jean-Pierre Gaillard attend.
Les États-Unis sont décidés à mener cette guerre. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça nous ramène au problème immédiat, c'est de savoir quel débat on a sur cette guerre. Aujourd'hui, le débat, il est en gros, est-ce que l'Irak a des armes de destruction massive ou des résidus d'armes de destruction massive ou non? Et donc, si elle en a, on va lui faire la guerre. Si elle n'en a pas, ce qui est difficile à prouver, on ne lui fera pas la guerre. Personne ne pose la question de savoir si c'est la question est bien posée. À supposer qu'il reste, et je pense qu'il reste, un certain nombre de résidus d'armes de destruction massive à l'Irak. La vraie question qui se pose, est-ce que c'est un prétexte suffisant pour faire la guerre? Je veux dire, des pays qui violent la loi internationale, les résolutions du Conseil de sécurité, il n'y a pas que l'Irak. On a en ce moment l'exemple de la Corée du Nord qui est, par certains aspects, beaucoup plus inquiétant. Les États-Unis ne sont pas prêts à faire la guerre à la Corée du Nord. Donc je crois que là, on voit bien comment aussi la manière dont les médias posent des fois le problème est mal posée. En fait, cette guerre, par les conséquences qu'elle peut avoir, quand on fait une guerre, c'est pas seulement en fonction d'un objectif, c'est aussi quelles vont être les conséquences de la guerre sur la région, quelles vont être les conséquences sur les relations internationales.
Et elle risque... sur la politique intérieure, parce que George Bush père n'a pas été renouvelé après la guerre en 92.
Tout à fait, ça, il y a un certain nombre de gens aux États-Unis qui pensent en fonction de considérations électorales, mais je crois que plus largement, je veux dire, il y a d'abord, on a voulu faire ce dossier sur l'Irak à partir d'une donnée, c'est que l'Irak est un pays avec un peuple, avec une population, des êtres humains, c'est pas un simple pion géostratégique. Et que c'est important de rappeler cette histoire et de rappeler les contradictions qu'il y a de ce pays. Par exemple, il y a un article qui est tout à fait intéressant, qui sont sur les dilemmes des Britanniques en 1920 quand ils conquièrent l'Irak, et qui sont un peu les dilemmes que rencontreraient aujourd'hui les États-Unis si ils installaient un haut commissaire ou un consul général, un gouverneur général. C'est-à-dire comment on dirige un pays de 20 millions d'habitants avec une histoire, avec des divisions sociales, des divisions ethniques, des divisions religieuses, etc. Ça ne se fait pas dans les bureaux du Pentagone, ça ne se fait pas dans les bureaux de la Maison-Blanche. C'est des choses extrêmement compliquées et sur lesquelles, contrairement à ce qu'on pense, les Américains sont très peu armés de faire ça. Et rappeler l'histoire, rappeler quelles ont été, par exemple, les difficultés de la Grande-Bretagne à mettre en œuvre une politique au moment de la conquête du pays après la Première Guerre mondiale, est intéressant parce que c'est les mêmes, enfin, dans une situation qui a profondément changé, mais les mêmes dilemmes. Et encore une fois, ce qui est important, c'est de voir que cette guerre, elle va toucher 20 millions d'habitants qui vivent déjà sous une dictature qui est une dictature particulièrement dure.
Un embargo.
Qui sont depuis 10 ans en embargo, comme ils ont fait la guerre, comme il y a eu la guerre avec l'Iran avant, c'est une population, c'est quelqu'un qui a 40 ans aujourd'hui, n'a connu pratiquement dans sa vie adulte que des guerres. C'est-à-dire, c'est quand même un élément qu'il faut prendre en compte quand on décide de dire on va refaire une guerre contre ce peuple. Et donc c'est ça qu'on a essayé de mettre en lumière dans ce dossier de 4 pages avec les différents éléments sur l'opposition, sur l'armée irakienne. Il y a un article tout à fait intéressant sur est-ce que l'armée irakienne va se battre ou non. Et l'auteur rappelle l'histoire de cette armée, comment elle s'est comportée en 90-91 au moment du Koweït, pourquoi une partie de l'armée s'est révoltée, pourquoi une partie de l'armée est restée fidèle. Des choses qui sont importantes pour essayer de voir qu'est-ce qui va se passer demain s'il y a une... comme nous le pensons, globalement, une intervention américaine contre l'Irak.
En parlant de la représentation, la réalité d'une guerre, il y a effectivement aujourd'hui des enfants, des femmes, des hommes qui sont une sorte de couloir de la mort en attendant en Irak. Il y a un très bon papier dans le Diplo de ce mois-ci sur le photojournalisme de Roskis, hein, qui raconte un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on va vers une virtualisation de l'image, une image de plus en plus soumise aux attentes supposées du lecteur, et avec une comparaison avec le temps de la guerre du Vietnam où les photographes avaient eu un impact très grand sur l'opinion.
Il y a une autre conséquence, je crois, de cette guerre qu'on ne mesure pas. C'est il faut bien voir que cette guerre est perçue dans la majorité du monde arabe et musulman comme une guerre contre le monde arabo-musulman. Et c'est perçu comme ça, y compris en Europe, dans les populations musulmanes. Il y a eu un sondage en Grande-Bretagne. Pour les deux tiers des Britanniques musulmans, c'est la guerre qui est en train de se préparer, est une guerre contre l'islam. C'est-à-dire qu'on est en train d'alimenter par cette campagne une espèce d'affrontement de civilisation. Tout le monde dit, nous ne voulons pas d'affrontement entre civilisations, ça serait une grande catastrophe, etc. Ça serait effectivement une grande catastrophe. Mais en même temps, cette guerre alimente ce sentiment qu'on va vers un affrontement entre le monde musulman et l'Occident, comme si l'Occident ou le monde musulman étaient des entités fermées, etc. Et ça aussi, c'est très très grave, pas seulement sur le plan international, mais ça peut avoir même des conséquences internes sur les différents pays européens.
Ça c'est la thèse de la guerre des civilisations.
Oui, mais une chose est de dire que cette thèse, que nous la rejetons dans le sens de dire que ce n'est pas inéluctable et nous ne voulons pas évidemment une guerre des civilisations. Autre chose est de dire que la politique aujourd'hui menée par l'administration américaine est perçue par le monde arabe musulman, que les gens soient d'ailleurs des islamistes ou non, les réactions sont vraiment unanimes comme une guerre contre le monde arabo-musulman.
Soutenue par les ex-marxistes, les tiers-mondistes, ce monde arabo-musulman est soutenu par exemple, un journal comme Le Monde Diplomatique, si on lit une certaine presse française.
Oui, mais c'est faux, il n'y a pas eu de critique plus virulente que celle du Monde Diplomatique sur la dictature irakienne. Nous ne sommes pas du tout dans un espèce de discours de dire Saddam Hussein est un défenseur de l'anti-impérialisme, etc. Saddam Hussein a été un bourreau de son peuple, et je crois qu'on l'a dit et répété. Une chose est de dire ça, après de réfléchir sur quelle stratégie qui permette de remplacer ce régime. Et pourquoi ce qu'on a dit, depuis 10 ans, les stratégies américaines ont abouti à chaque fois à renforcer le régime et pas à l'affaiblir.
Ah, mon frère Malamine. Quand tu joues comme ça, je pense que tu es au pays, hein. Je pense au cadeau empoisonné qu'on m'a donné en France. Tu sais, quand tu arrives dans un pays, il faut savoir là où tu vas mettre le pied. Tu sais, on dit bien chez nous, la terre tourne. Si tu mets le pied n'importe comment, tu vas aller tomber dans un sable bouvant. Le sable bouvant que les Français disent, quand tu rentres là-dedans la main, tu commences à se descendre comme un... Tu connais le truc de l'ascenseur qui est dans le 6e étage ou bien quoi, ça descend seul. C'est le sable mouvant, ça descend aussi comme ça. Je te dis, on m'a donné un cadeau empoisonné, une voiture qui n'a pas de pneus, qui n'a pas de roues, qui n'a pas de pare-brise, qui n'a pas de rétroviseur. Mais je vais rouler comment? Cadeau empoisonné, oh. Tu m'as donné voiture, oh. Voiture qui n'a pas de roue, oh. Voiture qui n'a pas de rétroviseur, oh. Voiture qui n'a pas de rampe à la vis, oh. Je vais rouler comme un, oh. Tu m'as donné une télé, télé qui ne marchait pas, oh. La première chaîne ne marchait pas, oh. La deuxième ne marchait pas, oh. Ah. Mais ça, c'est le problème. Tu me donnes un télé, ça ne marche pas. Je mets comme ça. Je vois seulement l'écran qui devient tout blanc. C'est comme les abeilles qui sont dans les chaussées, si c'est quoi là. Mais j'ai marché, j'ai dit, ma femme commence à dire, ah, mon frère, ça c'est un cadeau empoisonné que le monsieur vient de donner.
Cadeau empoisonné.
Cadeau empoisonné, ça pourrait tout à fait être une expression pour essayer d'expliquer ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire où L'essentiel du problème de ce pays est évidemment un gouvernement étranglé par les institutions financières internationales depuis très longtemps. C'est un des papiers du monde diplomatique de ce mois-ci, il y en a beaucoup d'autres, mais on va finir cette heure ensemble avec la question des retraites. Et oui, on arrive peu à peu vers la retraite. Comment vivrons-nous cette époque? Avec quels sous? Comment serons-nous financés? Évidemment, c'était une grande angoisse hein, tout au long de la vie. Angoisse qui, évidemment, comme souvent, est exploitée par un certain nombre de profiteurs d'abîmes.
On continue avec Martine Bulin. On va parler des retraites. Là, c'est quelque chose de concret qui nous touche. À combien on va toucher quand on sera à la retraite?
Bien, on est mal parti. D'abord, il y a une réforme en 1993 par le gouvernement Balladur avec M. Chirac déjà, qui avait réformé un premier mode de calcul de la retraite, qui aboutit à ce qu'on soit passé dans le secteur privé de 37 ans et demi de cotisation à 40 ans actuellement, à partir du 1er janvier 2003, ce qui fait qu'une partie des gens qui partent à la retraite aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui ont 60 ans aujourd'hui, qui ont pourtant fait une carrière complète, ce qui est quand même maintenant devient de plus en plus rare, se retrouvent à toucher 70% à peu près de leur ancien salaire, alors qu'avant la réforme de 93, ils touchaient 84%. C'est-à-dire qu'on va vers un mode de calcul des retraites, je ne rentre pas dans la technique, parce que c'est très compliqué. D'ailleurs, je pense que l'opacité et la technicité du calcul des retraites fait partie du jeu du pouvoir et de l'État, enfin des chefs d'entreprise, pour masquer un peu ce que sera la retraite et ce que toucheront les gens en fin de parcours. Donc ça, c'est ce qui est en train de se faire dès maintenant. Mais on va vers une aggravation du système avec deux éléments. Un, en allongeant le temps de travail, le nombre d'annuités nécessaires pour avoir droit à la retraite, notamment dans la fonction publique. Donc, on nous dit le privé est passé à 40 ans d'annuités. Une question de justice, tout simplement, on va faire passer le public à 40 ans d'annuités. Avec quand même une chose qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, la cessation d'activité actuellement a lieu à 57,4 ans pour les gens qui travaillent dans la fonction publique et à 57,7 ans pour les gens qui travaillent dans le privé. Simplement, dans le public, c'est sous statut, avec des droits réglementés auxquels personne ne peut toucher, alors que les gens du privé partent au même âge finalement, mais sans droit. C'est à la disposition du chef d'entreprise. Le chef d'entreprise peut très bien décider qu'à 55 ans, vous n'avez plus rien à faire dans l'entreprise. À partir de 50 ans, dans les entreprises, vous ne pouvez pas avoir de formation, c'est exclu. Quand vous êtes au chômage, vous ne retrouvez pas de travail. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un système où on dit aux salariés, vous devez travailler plus longtemps, 65 ans, dit le CNPF, 67, même certains experts du CNPF. Donc, on leur demande de travailler plus et en même temps, on les expulse de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va se trouver avec des salariés qui seront ni avec la possibilité de prendre leur retraite, ni la possibilité de rester dans l'entreprise. Ils seront chômeurs, RMistes, pré-retraités pour une partie d'entre eux. Et en vérité, on s'aperçoit que c'est un mode de gestion du personnel. Avec, dans l'entrée dans la vie active, quand on est jeune, on commence par des petits boulots, des emplois jeunes, y compris pour des...
On commence par rien du tout.
On commence par rien du tout, surtout quand on n'est pas qualifié. Donc, dans l'entrée dans la vie active, petits boulots, emplois jeunes, chômage, et une série de travail précaire. Et puis, à la fin de la vie active, on va se retrouver un nouveau sas avec CDD, intérim, retraite, pré-retraite, pardon, chômage. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un patronat qui gère une armée en début de vie, une armée en fin de vie, une armée de réserve, comme on disait autrefois, mais il y a du vrai, et qui les emploie, les jette dehors au gré de leur fantaisie. Ça n'a pas seulement des conséquences pour les personnels, naturellement.
Pas les fantaisies, c'est la conjoncture.
Oui. C'est pas des fantaisies.
Les contraintes, c'est pas la fantaisie. C'est
d'autant que la compétitivité française s'est effondrée ces derniers temps.
Alors cette étude sur la compétitivité française est absolument extraordinaire. Je crois que j'en avais parlé d'ailleurs le mois dernier. Mais c'est des critères uniquement ceux du patronat. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les fondamentaux en économie, c'est tout sauf les hommes. Ce qui est quand même absolument extraordinaire. Le deuxième aspect sur la retraite, donc il y avait, c'est effectivement le mode de calcul de la retraite. Hein. Les cadres vont aller vers l'épargne privée, mais au bout d'un certain temps, ils se demanderont si c'est juste de participer à un ensemble collectif où eux n'auront de moins en moins, alors qu'ils pourraient mettre plus sur le privé. Et c'est comme ça que va être attaqué le système de répartition, qui n'est pas un système, on n'y est pas attaché pour des raisons purement idéologiques, on y est attaché parce que c'est un système de solidarité entre les générations et entre les couches sociales. Et on ne peut pas, à longueur de journée, comme M. Sarkozy, comme M. Chirac, pleurer sur les liens sociaux qui se délitent et, comment dire, casser cet énorme instrument qui est en crise, qu'il faut bouger, bien entendu, mais casser cet énorme instrument de solidarité entre générations et entre couches sociales.
C'est toujours les mêmes partis qui font la guerre à l'Ukraine, si je m'en pourrais y repérer ou les rasser. Il est smartique pour choisir, mais si t'es la tête pour crasser, ou la maladie puisse nous casser. Télévision, paye de la grève des enseignants, on est presque tous feignants. J'm'en fous que le fondamental, j'ai un costaud sur le football, galop, j'ai ri mal à ton calme. Un meilleur lieu, je m'en fous, galop, j'ai ri pour j'y rentrer. J'y devrais, j'y vaux, et oui, ma vérité. Qui s'achète par kilo, la poste en place le stylo. À la bourbonne, francophone, il vient du Caire ou de la Sorbonne, à part du pire, on me voit les jeunes. Qu'aime les jeunes, fait le départ, et les vieux dans les bars, les rues pleines de barbares. Et il régit les mosquées, la moitié est endormie, je m'en vois dans son lit de bar. And they in your
Merci à tous, merci à Alain Grèche, bien sûr à Monet, Martine Bullard et Bernard Cassen. C'était au tour du numéro du Monde diplomatique de ce mois-ci. Un livre, parce qu'on a beaucoup parlé des États-Unis, enfin j'ai parlé des États-Unis et de l'opinion américaine. L'autre Amérique, les Américains contre l'état de guerre, c'est sorti chez Textuel, pour vous guérir de votre anti-américanisme pathologique, un ensemble de textes, d'auteurs qui ne sont pas tout à fait d'accord avec les choix de leur président et d'administration. Bush, technique aujourd'hui, Patrick Henry, Gaëtan Colli, assistant de Joël Lauvert, le répondeur, le chef du répondeur, c'est Christophe Imbert, le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37, assistant de réalisation, Coyen Guyen, le mail, daniel.mermet@radiofrance.com, et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale, réclame.